Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de 1 Pierre, au chapitre 3. Nous allons reprendre après bien longtemps, après beaucoup de temps, notre série d'études dans 1 Pierre. Nous en étions au chapitre 3. La dernière fois qu'on a médité dans ce livre, on avait considéré une partie du verset 18, « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Mais je vous invite à lire peut-être depuis un peu plus en avant, à partir du verset 13. Donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 22, jusqu'à la fin du chapitre. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13, nous lisons la parole de Dieu, et nous l'écoutons avec attention. Verset 13, et qui vous maltraitera, vous, si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayez une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi, a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Nous te prions que tu nous conduises à travers elle par ton esprit, que tu illumines nos cœurs, que tu ouvres notre entendement afin que nous recevions ce qui vient de toi et que par ton esprit nous soyons soumis pour l'obéissance à ta parole, pour la gloire de ton nom et pour notre bien, nous te prions. Amen. Voilà, les versets qui vont retenir plus précisément notre attention ce matin sont les versets 18 à 20. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage et on veut prendre un peu le temps de regarder. Mais les versets 18, 19, 20, sont considérés comme par certains comme l'un des versets les plus difficiles peut-être du Nouveau Testament. Il semble que Martin Luther ait dit que c'est sans doute le passage là ici le plus difficile de tout le Nouveau Testament et que il est presque impossible de comprendre exactement ce qui est dit là. Et c'est vrai que c'est difficile. À vrai dire, ce que j'avais envie de faire, c'est de sauter ce passage. Hein. C'est plus facile d'aller au chapitre 4, verset 1, parler un petit peu de choses qui sont peut-être plus claires, mais c'est la parole de Dieu, et donc nous ne voulons pas sauter ce qui est dit ici. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, et pour, je pense que La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Nous voulons croire que ce qui est là est utile pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Et puis, elle nous demande de tout faire pour l'édification aussi, hein. Que tout se fasse avec bienséance et que tout se fasse pour l'édification, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Et donc, ce qui est dit ici, que Pierre dit ici à ses lecteurs, c'était pour les édifier. Donc, nous devons chercher à saisir en quoi est-ce que nous pouvons être édifiés comme les lecteurs de l'apôtre Pierre, à qui les destinataires de cette lettre, en quoi nous pouvons être édifiés aussi aujourd'hui. Et donc, pour peut-être cerner un peu le sens de ce passage ici, il faut commencer par voir quel est l'objectif de l'apôtre Pierre quand il écrit ces choses. Donc, la première chose que je voudrais souligner, là, que l'on regarde, c'est quel est, premièrement, l'objectif de Pierre quand il écrit ce texte. Alors, on se rappelle qu'il écrit à des chrétiens qui sont dispersés, d'accord? On le voit au chapitre 1, ce sont des chrétiens qui sont dispersés dans l'Asie, la Cappadoce, le Pont, la Galatie, etc. Et il leur écrit cette lettre pour les encourager. Ce sont des chrétiens qui sont en proie à la souffrance ou en passe de connaître la souffrance dans leur vie et la souffrance à cause de leur foi chrétienne. Ils sont dans un monde dans lequel les gens, tout le monde n'était pas chrétien et ils subissaient des souffrances. Et quand on lit la lettre tout entière, dans ma Bible, par exemple, le thème même de la lettre, c'est écrit « souffrance et gloire ». C'est le thème que donne un peu l'auteur, là, qui a mis quelques commentaires. Donc, et c'est vrai que quand on lit la première épître de Pierre, si vous ne l'avez jamais lu, on l'a appris par cœur quelques-uns, on a récité des chapitres, il y a quelque temps, de cette première lettre. Vous allez voir qu'elle parle tout le long du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre de la souffrance. Il n'y a pas un seul chapitre dans lequel la souffrance n'est pas mentionnée. Je crois qu'elle est souffrance est mentionnée à peu près une quinzaine de fois dans les 5 chapitres. Ça fait une moyenne de 3 par chapitre. Et donc, ce que l'on peut souligner clairement ici, c'est que le but de Pierre quand il écrit cette lettre, c'est d'encourager des chrétiens qui souffrent, et même plus que cela, de les préparer à souffrir. Et si vous regardez la section qui nous intéresse, là, entre les versets 19 et les versets 22, eh bien, c'est une partie qui est encastrée entre deux pensées. Regardez au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert. Et puis au chapitre 4, verset 1, et n'oubliez pas qu'il n'y avait pas de chapitre ou tout ça, quand ça c'est venu bien plus tard, il dit quoi? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Donc on comprend bien qu'il parle de souffrance ici. Il dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et puis il dit des choses, et puis, ainsi donc c'est sa conclusion, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Autrement dit, il expose les souffrances de Christ et il appelle les croyants, ses lecteurs, à accepter aussi dans leur vie la souffrance pour Christ et même à s'armer, on va le voir après, à s'armer de la même pensée, c'est-à-dire à s'attendre à la souffrance et à s'armer pour pouvoir souffrir. Donc la lettre entière est un encouragement à vivre la vie chrétienne au sein de l'opposition. C'est un appel à supporter la souffrance et à s'y attendre, chapitre 4, verset 1, on peut le voir. C'est même un appel à considérer la souffrance comme une grâce devant Dieu. Rappelez-vous cela, chapitre 2, regardez chapitre 2, et au verset 19, il dit... Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Voyez, il dit, si vous souffrez parce que vous avez volé le truc du voisin, ça c'est normal. Il dit, c'est normal que vous souffriez. Mais quand vous souffrez parce que vous faites le bien et vous souffrez à cause de l'évangile, il dit, considérez cela comme une grâce devant Dieu. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul avait dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 29, je crois, quand il dit, car Dieu vous a fait la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Il dit même que la souffrance peut être considérée comme une bénédiction, chapitre 3, verset 14. Il dit, d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Donc, il y a une joie, une bénédiction même dans cette souffrance. Et puis il dit que la souffrance peut être aussi la volonté de Dieu, chapitre 3, verset 17, nous l'avons lu, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Et puis au chapitre 4, verset 19, il dit ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Donc il y a telle souffrance qui est selon la volonté de Dieu. Ça écarte tout ce qu'on entend parfois dans l'évangile de prospérité, n'est-ce pas, où le chrétien doit être en bonne santé, ne doit pas connaître la maladie, doit être riche, ne doit pas souffrir. Et ici, la Bible dit que Dieu, c'est la volonté de Dieu que le chrétien souffre. C'est ce qui est écrit ici. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et puis, il dit même que la souffrance est une chose normale et ordinaire. On pourrait penser le contraire. Ce qui est normal, c'est d'être en paix, de ne pas connaître la souffrance, d'être bien, d'être dans le confort. Mais il dit, regardez au chapitre 4, verset 12, il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Il dit, non, la souffrance n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire. Faut pas considérer le fait de souffrir comme quelque chose d'anormal. C'est normal, dit-il. Ça fait partie de l'ordinaire du chrétien. Ça fait même partie de l'ordinaire du monde. Hein? Quand on regarde dans l'histoire du monde, il y a toujours eu de la souffrance. Et maintenant, avec cette guerre que nous avons en Europe, eh bien, on fait des calculs, on dit, ouais, on avait pensé qu'on était tranquille, qu'on ne verrait plus la guerre sur notre continent, n'est-ce pas? La dernière fois, c'était il y a 70 ans, d'accord, à peu près, la Grande Guerre, etc. C'est pas grand, c'est pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité, ça. Hein? Donc on voit bien que les espaces de paix que nous avons sont de toutes petites poches, mais en général, l'histoire du monde est marquée par des guerres, par des souffrances. Et l'Écriture nous dit que même la vie du croyant est aussi marquée par des souffrances, précisément parce qu'il est croyant. Et donc, on voit ici que l'objectif de Pierre, le but qu'il a, c'est vraiment d'encourager les chrétiens et de les préparer à l'éventualité de la souffrance. Et je crois que pour nous, ça peut être la même chose. Peut-être que nous ne connaissons pas particulièrement, comme ces chrétiens, une souffrance de la même manière, mais nous devons néanmoins nous armer, parce que probablement, tôt ou tard, cela se produira, et nous devons être armés pour supporter la souffrance. Et Pierre montre que Christ lui-même, le divin maître, n'a pas été épargné par la souffrance. Si vous lisez Ésaïe 53, on trouve même cette phrase, « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. L'Épître aux Hébreux dit, « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Donc quand il parle de Christ, il parle essentiellement de sa souffrance. Il dit Christ lui-même, c'est pour ça qu'il dit au verset 18, Christ aussi a souffert. Il avait déjà dit au chapitre 2, me semble-t-il, il dit, au chapitre 2, verset 21, il dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. D'accord? Donc on voit bien ici, il dit, votre maître a souffert. Si vous voulez lui ressembler, il faut vous armer de la même pensée. Et donc le but, je reviens ici, c'est d'encourager les chrétiens qui souffrent injustement en faisant le bien. Les souffrances de Christ sont mises en avant et aussi bien sûr l'excellence des résultats de ses souffrances parce qu'il dit qu'il est ressuscité. Et puis à la fin du verset 22, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Il est au ciel et les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Donc tout cela s'est soldé par une victoire éclatante. Mais néanmoins, il a souffert. Et de même que les souffrances de Christ, c'est ce qu'il dit ici, ont permis le salut, verset 18, Christ a souffert une fois pour toutes afin de vous amener à Dieu, eh bien, il tente de leur faire comprendre que les souffrances du chrétien aussi peuvent aider à conduire d'autres à Christ. Pas, les souffrances du chrétien ne sont pas les mêmes que celles de Christ. On avait vu la dernière fois que les souffrances de Christ sont les souffrances expiatoires, sa mort est une mort expiatoire, mais les souffrances de croyants participent aussi à conduire vers Christ ceux qui ne le connaissent pas encore. Et donc, les versets 19 et 20 doivent être lus, je crois, avec cette ligne directrice. Ce que Pierre est en train de faire, c'est d'encourager les chrétiens à la souffrance. Alors, ça c'était le premier point. Le deuxième point, donc, on veut considérer ce que Pierre dit plus précisément dans les versets 19 et 20. Et j'ai intitulé ce paragraphe « La proclamation de Christ aux esprits en prison ». Ce qui est certain dans ce passage, hein, qu'on peut relire, il dit ici, fin du verset 18, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et cette expression ici, il est allé prêcher aux esprits en prison, est quelque chose qui pose problème. On ne sait pas exactement ce que cela veut dire et ça soulève des questions. Qu'est-ce que Christ a proclamé? C'est une question. Il est allé prêcher ou proclamer, dit le texte. Il y a trois questions que l'on se pose souvent. C'est qu'est-ce qu'il a proclamé? Est-ce qu'il a annoncé l'évangile? Est-ce qu'il a proclamé simplement sa victoire? Est-ce qu'il a prononcé une condamnation sur des êtres? Ça, c'est une première question. Une deuxième question que cela soulève, c'est à qui a-t-il proclamé ce qu'il a proclamé? Le texte dit à des esprits en prison. Alors, est-ce que il a proclamé à des anges déchus? Les esprits, est-ce que ce sont des anges déchus? Est-ce que il a proclamé à des personnes qui sont décédées et qui sont maintenant donc hors de leur corps, qui sont des esprits, etc.? Donc il y a toutes ces questions qui viennent à l'esprit. Et puis une troisième question, c'est quand est-ce qu'il l'a proclamé? D'accord? Est-ce qu'il l'a fait ici, comme cela semble être dit, après sa résurrection, puisqu'il dit il a été mis à mort quant à l'esprit et rendu vivant, il a été mis à mort, pardon, quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Donc est-ce que c'est après sa résurrection? Est-ce que c'est entre sa mort et sa résurrection qu'il l'a fait? Ou l'a-t-il fait à un autre moment? Est-ce que c'est avant son incarnation? Donc vous voyez que pratiquement chaque mot hein, de ce que Pierre dit ici peut être interprété différemment. Les esprits, qu'est-ce que c'est? Ce sont des anges, ce sont des humains, etc. Le temps où il a fait quelque chose, le contenu de la prédication, est-ce qu'il a prêché l'évangile ou est-ce qu'il a proclamé quelque chose d'autre? Et les avis souvent divergent là-dessus. Alors, Le temps du sermon du dimanche matin n'est pas un temps pour être technique dans beaucoup de détails. On veut, je l'ai dit tout à l'heure, que ce que nous lisons, ce que nous entendons puisse nous édifier, et on se souvient que Pierre veut édifier les croyants, mais néanmoins il est important peut-être juste au moins de souligner une ou deux interprétations qui sont données. Je vais vous dire celle à laquelle j'apporte mon adhésion et pourquoi, et puis ensuite nous allons conclure. Alors il y a plusieurs interprétations. Certains les classent au nombre de 5, d'autres au nombre de 3 grandes interprétations de ce que l'apôtre Pierre dit ici. Moi, j'en retiens 3 principalement. Premièrement, ce pourrait être dans ce qu'il dit que Christ a proclamé, est allé en enfer pour proclamer quelque chose aux contemporains de Noé. D'accord? Donc, qui sont maintenant décédés. Donc, ça veut dire quelque chose qui s'est passé, probablement entre sa mort et sa résurrection, ou après sa résurrection. Et donc, cette interprétation soutient que la prison en question, ici, bien sûr, c'est l'enfer, hein, et que les esprits de ceux qui sont... les esprits sont les hommes désobéissants qui sont décédés, à qui Christ vraiment est allé prêcher après sa résurrection, probablement. Et ce que l'on appelle ici souvent, ceux qui soutiennent cette position, disent donc qu'une seconde chance a été donnée à ceux qui vivaient du temps de Noé et qui n'ont pas reçu le message que Noé prêchait. Et pour une raison ou pour une autre, voilà, Christ est allé pour leur offrir cette seconde chance. Mais cela, bien sûr, c'est une interprétation qu'on peut entendre, que vous pouvez entendre, c'est pour ça que je la souligne. Cela vient en contradiction avec ce que la Bible dit par ailleurs. Et la Bible ne se contredit jamais elle-même. Et quoi que soit la difficulté d'un passage, il ne vient jamais contredire une vérité établie dans la parole de Dieu. C'est un principe que l'on doit bien garder dans notre esprit. Hébreux 9, verset 27 dit, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, il n'y a pas de place, une fois que l'on est mort, pour être encore évangélisé et recevoir quelque chose. Après la mort, on attend le jugement. Okay. C'est le jugement, pas de seconde chance. Dans le texte de Luc, chapitre 16, vous vous rappelez, lorsque Jésus raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche, et à un moment, l'homme riche, donc la Bible dit que les deux sont morts, Lazare est transporté dans le sein d'Abraham, et l'homme riche était en proie à la souffrance et au tourment, et la douleur était tellement intense qu'il supplie. Il dit, lève les yeux et il voit Lazare dans le sein d'Abraham et il supplie Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse tremper le bout de son doigt dans de l'eau et venir pour lui rafraîchir la langue. Mais ce que Abraham dit, il dit que c'est pas possible. Et il dit ceci au verset 26 du chapitre 16 de Luc. Il dit, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc, quand les esprits sont déjà en prison et qu'ils ont été incrédules dans leur vie, il est impossible que quoi que ce soit fait pour qu'ils puissent s'en sortir. Donc, voilà. Mais il y a quand même des personnes qui soutiennent cela, c'est pour ça que je le souligne. Une autre interprétation qui est donnée, là il y a beaucoup plus de croyants et des chrétiens tout à fait affermis, sérieux à tout point de vue qui soutiennent cette position. C'est que la proclamation de Christ dont il est question ici a été faite aux anges déchus. Parce que il semble que le mot esprit ici ne soit jamais utilisé dans l'écriture pour les hommes, mais ça définit toujours les anges. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'on trouve, par exemple, en Corinthiens 5:5, hein, il est question de l'esprit de ceux qui sont morts. Dans la Bible, on trouve beaucoup parler de l'esprit de ceux qui sont morts. Hein. Donc, on parle d'esprit quand on parle d'humains décédés aussi dans l'Écriture. Donc, on ne va pas prendre le temps de regarder tout cela, mais ça existe aussi. Mais en tout cas, dans cette interprétation, il est question que après sa mort, après sa résurrection, Christ est allé prêcher à des anges déchus. Donc l'idée consiste, bien sûr, à considérer ces esprits comme uniquement des anges. Et dans cette interprétation, les anges en question sont les fils de Dieu décrits dans Genèse chapitre 6. Parce qu'il faut recoller cela à ce que Pierre dit, parce qu'il parle du temps de Noé. Alors, est-ce qu'il y a eu des anges du temps de Noé qui ont fait des choses? Alors, vous vous rappelez de Genèse 6 qui dit que, je vous lis, hein, Genèse 6 un petit peu, qui dit ceci, il dit, vous pouvez regarder, hein, Genèse 6, premier livre de la Bible, verset 1, il dit, lorsque les hommes furent, eux, commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et puis après, ils ont eu des enfants avec ces femmes. Et il dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne sont que 120 ans. Et puis il dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et donc, ils soutiennent que fils de Dieu ici est quasiment toujours utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner des anges, en s'appuyant beaucoup sur Job qui dit les fils de Dieu sont allés voir, vous rappelez, l'Éternel, et puis Satan est venu parmi eux ici. Et donc, l'idée consiste à dire cela, hein, à supposer, en tout cas à interpréter fils de Dieu ici comme des anges, et à soutenir que ce que Jude et ce que Pierre lui-même disent plus tard concerne ces anges-là. Dans Jude chapitre Jude verset 6 et 7, je vous lis, il est question ici d'anges qui n'ont pas gardé leur origine et que Dieu a maintenu dans un abîme, hein, dans les ténèbres épaisses. Alors Jude, je vous lis Jude 6, il dit, et qu'il réserve dans les liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication, donc je lis dans la version Darby, hein, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là. Donc il dit, ces anges ont agi de la même manière que les gens de Sodome et Gomorre qui se sont adonnés, d'accord, à la fornication et étant allés, il dit ici, après une autre chair, c'est-à-dire une chair d'une autre nature. Ça fait penser bien sûr à ce que l'Écriture appelle à l'homosexualité, hein. Les hommes sont allés vers une autre chair, au lieu d'aller vers les femmes, ils sont allés hommes vers les hommes ici. Ils sont allés vers une autre chair. Il dit, sont là comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc il dit, quelque part il y a des anges qui déchus, qui ne sont pas libres de se mouvoir. D'accord. Et qui ont été, à cause de leur péché, maintenus dans d'épaisses ténèbres, hein, c'est ce qu'il dit ici, sous l'obscurité. D'accord. Ils sont réservés dans des liens éternels, sous l'obscurité, ici. Et ce sont des anges qui n'ont pas gardé leur origine, qui n'ont pas gardé leur rang, qui sont sortis du cadre de ce que Dieu avait prévu pour eux. Donc, les partisans de cette interprétation disent que ces anges dont il est question ici sont certainement les anges, ceux qui est interprété comme être des anges et qui sont appelés fils de Dieu, qui se sont alliés aux femmes, dans l'Ancien Testament, particulièrement en Genèse chapitre chapitre 6. Et l'apôtre Pierre dit en 2 Pierre 2,4, il dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché », donc lui aussi il soutient quelque part qu'il y a eu des anges que Dieu, qui sont dans une catégorie particulière, « si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement », donc c'est considéré ici comme des anges particuliers qui ne sont pas libres de se mouvoir ici, donc une autre catégorie ici. On va pas s'étendre là-dessus. Donc, ils disent que, les personnes qui soutiennent cette position disent que, dans ce cas, ça pourrait vouloir dire que ce que Pierre dit ici, quand il parle que Christ est allé proclamer à des esprits en prison, si on prend les esprits en prison comme des anges déchus, c'est probablement entre sa résurrection et son ascension qu'il a proclamé sa victoire et la condamnation définitive à ces anges qui, à l'époque de Noé, ont commis quelque chose, pendant que la patience de Dieu s'exerçait, ont commis un acte qui est relativement grave dans le sens où ils ont fait ce qui est contre nature. Ça se soutient, il y a vraiment beaucoup d'auteurs que j'apprécie, que je connais, beaucoup, qui soutiennent position-là. Mais ça n'est pas partagé non plus par tous. Alors, il y a une troisième interprétation, c'est celle à laquelle j'adhère le plus, parce qu'il me semble qu'elle soutient mieux l'idée de Pierre dans tout ce qu'il est en train d'enseigner à ses lecteurs. Cette interprétation dit que Christ a prêché, le sens quand il dit que Christ a prêché aux esprits en prison, alors je relis le passage, il dit « l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. » Il dit que ces esprits sont les esprits des contemporains de Noé à qui Christ a prêché à l'époque de Noé. D'accord? Et qui sont maintenant en prison, c'est-à-dire en enfer, attendant le temps de leur jugement. Donc l'idée serait de dire ici, la compréhension serait de dire ici que Christ a proclamé, a parlé au travers de Noé à ces personnes. Elles ont été incrédules et maintenant elles sont en prison. Et il dit donc Christ est ressuscité dans l'esprit, parfois d'autres textes disent par l'esprit, et dans cet esprit, il était allé auparavant. Donc, si vous lisez la traduction de la Bible Semeur, ils ont choisi cette manière d'interpréter, hein. Je ne l'ai pas malheureusement noté ici. Mais dans cet esprit, il était allé auparavant prêcher par Noé aux contemporains de Noé. D'accord? Alors, est-ce que cela se soutient? Ça rejoint ce que Pierre dit en chapitre 1, verset 10. Regardez chapitre 1, verset 10. Il dit, les prophètes qui ont, on avait considéré ce passage, prophétisé la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. On rejoint ici le thème des souffrances de Christ, mais aussi le fait que dans les prophètes, l'Esprit de Christ attestait des choses. Et puis, un peu plus bas, au verset 12, il dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes que vous, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Autrement dit, ceux qui prêchent, ceux qui parlent, le font toujours par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit au travers de ceux qui parlent. Et Pierre parle particulièrement ici, concernant les prophètes, de l'Esprit de Christ qui agit au travers les prophètes. Il dit pas l'Esprit, mais il dit bien l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est Christ aussi lui-même. C'est Christ lui-même qui parle à travers les prophètes. On trouve cette pensée ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple en Éphésiens chapitre 2. Si vous lisez, regardez Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, où l'apôtre Paul dit au verset 17, il parle de Christ, il dit « Il, Jésus-Christ, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. » Il parle à l'église d'Éphèse, il parle aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 17, il parle aux Éphésiens, il dit « Il est venu annoncer la paix, évangéliser », c'est le mot qui est utilisé ici. Christ est venu évangéliser la paix aux Éphésiens. Mais à quel moment Christ a-t-il parlé à l'église d'Éphèse? Personnellement, physiquement, jamais. Dans un certain sens, c'est les apôtres qui ont parlé. D'accord? Donc, ce qu'il est en train de dire, quand il dit Christ vous a parlé, il a parlé par les apôtres, par son esprit et à travers la prédication apostolique. Donc, quand le prédicateur prêche, quand Paul prêche, les apôtres prêchent, les prophètes prêchent, c'est Christ qui prêche au travers d'eux. Et ce que dit ici Pierre concernant Noé, c'est que probablement, on peut le prendre dans ce sens-là, c'est que Christ a parlé au travers de la prédication de Noé, par son esprit, à ces personnes, déjà. Et elles n'ont pas reçu. Et c'est des personnes qui, maintenant, sont en prison. Donc, l'idée consiste à dire, ce n'est pas maintenant que Christ est allé leur prêcher, c'est-à-dire, elles sont maintenant en prison, mais auparavant, Christ leur avait prêché. Quelqu'un disait, pour soutenir cela, disait, c'est comme si on dit, par exemple, c'est un auteur qui dit ça, c'est pas moi, j'ai regardé, par exemple, la date de naissance de M. Macron, on dit le président Macron est né en 1977. Mais quand il est né, il n'était pas président. D'accord? Donc, celui qui est président maintenant est né, il n'était pas président à l'époque, en 1977. Vous voyez, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire qu'on dit, on l'appelle président maintenant, d'accord? Mais c'est maintenant qu'il est président, mais quand il est né, il n'était pas président. Mais quand on parle de lui, on peut dire, le président Macron est né en 1977. Et ce que Pierre dit ici, c'est la même chose. Il dit, ce sont des esprits qui sont maintenant en prison, d'accord? C'est maintenant qu'ils sont en prison, donc il ne dit pas le maintenant, ok? Ça peut se comprendre. Ils sont maintenant en prison, mais auparavant, ils ne l'étaient pas, d'accord? Ils ne l'ont pas toujours été. Et c'est à ce moment-là que Christ leur a parlé. Quand Christ leur a parlé, c'est au moment où ils n'étaient pas en prison. Et maintenant, ils le sont. Donc, ce sont des esprits en prison qui ont entendu. On a la même pensée ici en 1 Pierre 4. Regardez 1 Pierre 4 encore, juste rapidement. J'espère que vous arrivez à me suivre un peu, hein. J'essaye d'être le plus clair possible. 1 Pierre chapitre 4 et au verset, je crois que c'est au verset, alors c'est 15 ou 16, hein, où il parle que l'évangile a été prêché aux morts. Verset 6, pardon, oui, je suis trop loin. Merci. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts. Hein? Puisque la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, on peut comprendre bien que il est impossible d'annoncer l'évangile à ceux qui sont morts. Il n'y a aucune possibilité pour que leur état change ici. Donc, on comprend que c'est ceux qui sont morts maintenant ont eu l'occasion d'entendre l'évangile quand ils étaient vivants. D'accord? On dit, l'évangile leur a été annoncé. Il a été annoncé aux morts, pas quand ils sont morts. Ça a été annoncé à ceux qui sont morts maintenant. D'accord? Mais le temps où ça leur a été annoncé, c'est quand ils étaient vivants. C'est un peu la même pensée ici. Donc, Christ est allé prêcher aux esprits qui sont maintenant en prison, mais quand il leur a prêché, c'était auparavant, à l'époque, et c'est pour cela qu'on a cet espace de temps qui nous est rappelé. C'est à l'époque de Noé, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, quand la patience de Dieu se prolongeait. Et donc, je crois que on peut comprendre ce que Pierre dit ici dans ce sens-là. Hein? Il parle donc de l'incrédulité de ces hommes que ces hommes connaissaient, ces hommes avaient auparavant. Et la Bible, quand elle parle d'incrédulité, elle parle toujours d'incrédulité de la part des hommes. Il parle ici de la patience que Dieu exerce, la patience est toujours exercée à l'égard des hommes, pas à l'égard des anges. Il n'y a aucun espoir de salut pour les anges qui ont péché. Hébreux dit, ce n'est pas aux anges qu'il est venu en aide. C'est aux hommes qu'il est venu en aide. Donc, il n'y a aucune possibilité de salut pour les anges. Donc, quand Dieu patiente, c'est toujours à l'égard des hommes qu'il patiente. Il attend qu'ils se repentent. Et la patience de Dieu s'exerce toujours à l'égard des hommes. Et quand on lit le livre de la Genèse, Genèse 6, 7 et 8, concernant le déluge, on voit bien que c'est le péché des hommes qui a amené le jugement du déluge. Et donc, la patience s'exerce envers les hommes parce que l'Écriture ne laisse jamais entrevoir de salut possible pour les anges déchus. Donc ça, c'est la position, je pense, qui nous permet de bien comprendre un peu ce que Pierre dit ici. Je souligne, bien sûr, qu'il y a celle qui concerne les anges déchus, qu'il y a beaucoup des personnes qui la soutiennent. Moi, celle-là me paraît la plus celle qui rentre dans le contexte de la souffrance que Pierre souligne ici. Et bon, je dis moi, mais c'est beaucoup d'autres aussi, hein. J'ai lu pour chercher un peu ces explications, et je crois qu'elle est satisfaisante ici. Mais bon, si quelqu'un croit une autre, voilà, on va pas. L'important est d'essayer de comprendre pourquoi Pierre le dit surtout. Hein, pourquoi Pierre le dit. Alors, troisièmement, donc on a vu l'objectif de Pierre, la prédication. Le sens que pourrait avoir la prédication aux esprits en prison. Maintenant, on veut voir l'encouragement que cela implique. C'est ça qui m'intéresse le plus ici. Si Pierre dit cela, et si ce que je soutiens comme étant ici le sens possible de ce passage, comment est-ce que les chrétiens sont encouragés, les chrétiens qu'il écrit sont encouragés? Pourquoi est-ce que lorsqu'il évoque Noé, qu'il évoque la prédication de Christ à travers l'Esprit et par Noé, en quoi est-ce que cela peut être encourageant pour des chrétiens qui souffrent ou qui sont en passe de souffrir? Quels sont les parallèles qui sont établis entre la situation de Noé, à l'époque de Noé, et puis celle des chrétiens auxquels Pierre écrit? Qu'est-ce que eux ils comprennent de ce que Pierre dit, hein, aussi, hein, il faut se mettre dans leur époque, dans leur pensée, pour essayer de sentir ce qu'ils peuvent comprendre à travers ce que Pierre dit. Premièrement, ici, on peut voir que Noé a prêché au sein d'une génération hostile, et c'est exactement ce que vivent ces personnes à qui Pierre écrit. Ils sont au milieu d'une génération hostile. Ce sont des gens qui les calomnient. On l'a vu tout à l'heure, hein. Ils leur demandent d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Donc, ils sont au sein d'une génération qui est sans Dieu et qui est une génération hostile à la foi, à l'évangile, donc hostile à ceux qui professent la foi. Et l'évangile attire toujours l'hostilité. L'évangile attire toujours l'hostilité. Il ne faut pas trouver, il disait tout à l'heure, que il est étrange de souffrir parce que l'évangile attire toujours de l'hostilité. Donc, on pourrait dire qu'il y a un parallèle entre les situations ici. Deuxièmement, on peut voir aussi que Christ est à l'œuvre dans le monde à travers tous ses serviteurs. C'est ce qu'il souligne ici. Il a été à l'époque de Noé et il est aussi à l'époque où Pierre écrit à ces chrétiens qui sont persécutés. Il en a toujours été ainsi. Christ, préincarné, on pourrait dire, a prêché à travers Noé, à travers les prophètes. Et maintenant, Christ glorifié prêche à travers son esprit, par son esprit, au travers de ses serviteurs, au travers des chrétiens. Il a prêché par son esprit au travers des prédicateurs, 1 Pierre 1:12, on l'a vu. Et maintenant, il prêche aussi à travers ceux qui sont persécutés. Et donc, il leur dit, supportez la souffrance parce que, par ce moyen aussi, Christ agit au travers de vous par son esprit et il prêche. De même qu'il l'a fait dans le milieu hostile où vivait Noé, il a prêché à travers Noé, il œuvre aussi de même au travers de vous. Ça, c'est un deuxième parallèle qu'on peut établir. Un troisième, c'est que on peut voir que la souffrance ou la continuation des souffrances témoigne de la patience de Dieu envers les perdu. C'est comme si Pierre disait aux chrétiens, patientez, patientez. Dieu vous maintient dans la souffrance parce qu'il use de patience à la fois envers vous et envers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile. C'est ce qu'il dit d'ailleurs au chapitre 2, à la deuxième épître. Écoutez, je vais vous lire en 2 Pierre chapitre 3, je crois, ou 2, j'ai pas bien noté. Oui, chapitre 3, il dit « Croyez que la patience de Dieu est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » Et il me semble, auparavant, au chapitre où il dit que Dieu use de patience, 3.9, pardon, voilà, 3.9, il dit « Le salut, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ici. Et à chaque fois, souvent que l'Écriture cite Noé, cite souvent en rapport avec la patience de Dieu qui a patienté au temps du déluge pendant 120 ans. D'accord? Quand Dieu dit qu'il va envoyer un déluge, il y a 120 ans qui se passent. Dieu a patienté pendant 120 ans pour la repentance, pour le salut. Et donc, Pierre dit quelque part à ses lecteurs que la souffrance n'est pas une question de confort, mais c'est une question de salut. Ce qui est en jeu dans la souffrance, c'est le salut. C'est le salut. C'est que Dieu patiente, d'accord? Il permet que vous supportiez de la moquerie par les autres, parce que son objectif est de sauver. De même qu'il a il lui a plu de briser Jésus-Christ par la souffrance pour que vous soyez sauvés, il lui plaît de vous maintenir parfois dans la souffrance afin que d'autres aussi puissent être sauvés. La souffrance est toujours une question de salut pour les autres. Donc comment on réagit à la souffrance est très important. Est très important parce que Dieu utilise la souffrance du croyant et la manière avec laquelle il traverse la souffrance pour être un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas et amener au salut ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, un quatrième point que je voudrais souligner ici, de parallèle, c'est le petit nombre. Vous voyez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 3, regardez, il dit ici que il y a un verset 20, c'est ça, il dit, il parle de ceux qui autrefois étaient incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées. Un tout petit nombre de personnes ont été sauvées. Et souvent, ce qui décourage, c'est quoi? C'est le petit nombre que l'on est. On est un petit nombre de chrétiens. Et certainement à l'époque, ils étaient dans le monde romain où il y avait beaucoup de gens, la majorité des gens ne connaissaient pas Christ. Ils étaient contraints des corps, ils étaient idolâtres et plus, ils adoraient plusieurs dieux, etc. Et le christianisme était comme quelque chose de singulier dans cette période. Et donc les chrétiens, une petite poignée, un petit troupeau. Et Pierre dit, voilà, Noé, ils étaient 8. 8 furent sauvés. Mais il dit, c'est 8 qui furent sauvés. Et tout le monde dit, ce qui est important ici, ce n'est pas de s'attacher au nombre, c'est de s'attacher au résultat. Le fait d'être sauvé. Ce qui est, encore une fois, c'est le salut qui est en jeu ici. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de ceux qui sont en face. Ils sont nombreux, et probablement pour Noé, ils étaient nombreux. Imaginez Noé qui va, il construit une arche. Mais les gens n'avaient jamais vu de pluie à l'époque. Nous, ça nous pose pas de problème. On connaît quelques déluges, on connaît des inondations. Ces gens-là n'avaient jamais vu cela. Et Noé dit, voilà, vous allez vous mettre, on va construire une arche parce que Dieu va envoyer un déluge. Mais ils n'ont jamais entendu parler de pluie, etc. Donc, ils se sont certainement moqués de cet homme qui construit un truc. Qu'est-ce que tu fais là avec cette petite poignée d'illuminés en train de construire un truc dont personne ne comprend le sens? Ça va servir à quoi ce que tu fais? C'est profondément stupide. Et parfois, quand on est peu à croire quelque chose face à un grand nombre qui semble autre chose, on peut avoir une impression de stupidité. Et Pierre dit, ils étaient que huit. C'est pas là que le problème. Ils étaient huit avec Dieu. Il vaut mieux être huit avec Dieu que des millions et des millions sans Dieu. Les huit furent sauvés. Ils sont passés au travers du jugement. Tandis que la majorité qui avait rejeté, eh bien, elle a été engloutie. Et maintenant, leur esprit sont en prison. Et ça, il faut qu'on soit bien conscient de ça. L'enjeu ici, c'est que, eh bien, ils ont rejeté la prédication de Noé, et maintenant, ils sont en prison. Ce qui compte, dit Pierre, ce n'est pas le nombre, c'est avec qui vous êtes. Avec Dieu ou sans Dieu. Et si vous souffrez pour Christ, vous êtes avec Dieu, eh bien, vous allez être sauvés. Je termine, chers frères et sœurs, avec deux points d'application. Premièrement, ici, la souffrance pour la cause de l'évangile fait partie de la volonté de Dieu pour le croyant. C'est ce que Pierre souligne à travers ce passage. On a pris l'habitude de considérer l'absence de souffrance, je le disais tout à l'heure, comme l'absence de souffrance pour la foi même, comme une chose ordinaire et normale. Et c'est vrai que pour l'instant, dans nos pays occidentaux, on ne subit pas de persécution forte pour notre foi. Et parfois même, quand nous évangélisons, il peut nous arriver de dire, viens, tu vas dans notre église, tu verras, il y a beaucoup de jeunes dans notre église, hein. On a beaucoup d'activités, ça bouge pas mal. Et même les pasteurs, ils sont sympas. Bon, peut-être vous dites pas ça, mais bon. Mais on peut être tenté de dire des choses comme ça. C'est-à-dire présenter l'évangile comme quelque chose qui est confortable. Hein. Présenter l'église comme quelque chose qui est confortable. Mais quand ces gens, à l'époque de Pierre, évangélisaient, c'était comme s'ils disaient, viens, mais je peux te dire que tu vas souffrir. Si tu veux pas souffrir, il vaut mieux rester comme tu es. Et nous avons tendance à dire, si tu veux pas souffrir, viens. Et tu seras... Tu n'as pas de femme, tu vas en trouver une. Tu n'as pas de travail, tu vas en trouver un. Tes circonstances vont s'améliorer. Tu vas voir, tu vas plus ressentir de mal, de douleur. Bon, je pense, nous disions pas ça, mais parfois, on a tendance à présenter l'évangile comme quelque chose de confortable. Mais on oublie qu'il y a une dimension de souffrance qui est attachée. Jésus disait, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il ne promet pas l'absence de souffrance. Et dans Matthieu 10, il dit, même ceci, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ça arrive souvent ça. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. L'évangile, quand il entre quelque part, il amène la division. Parce qu'il met une frontière entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur, entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre Dieu saint et le monde corrompu. Et forcément, quand on veut suivre Christ, véritablement, tous ceux qui veulent vivre pieusement de l'apôtre Paul, Timothée, seront persécutés. Il y a une persécution à laquelle on doit s'attendre. Donc, il nous faut, en tant que chrétiens, nous rendre compte souvent qu'il suffit parfois, dans nos pays, même occidentaux, d'une loi, d'une seule petite loi, pour que tout bascule. Et qu'on puisse connaître d'un jour à l'autre une persécution. Il suffit d'une loi votée pour qu'on nous interdise de dire ceci, ou interdise de dire cela, etc. Et pour que l'évangile trouve un frein, et pour que celui qui va vouloir propager l'évangile trouve de l'hostilité. Mais on doit être préparé à cela. Pierre dit. Il dit, souvenez-vous de Christ. Souvenez-vous que même à l'époque de Noé, ça existait déjà. Les gens se sont opposés au message de l'évangile. Ça a toujours été comme ça. Donc vous n'êtes pas des cas exceptionnels. Soyez toujours prêts, dit-il, en 1 Pierre 3, verset 15. Et puis, deuxième point d'application, je voudrais souligner la réalité du danger qui guette ceux qui rejettent de souffrir avec Christ. Pierre dit que Christ a prêché à ceux qui étaient incrédules auparavant et qui maintenant sont en prison, des esprits en prison attendant le jugement. C'est ça qui guette. C'est une manière terrible, je trouve, de parler de ceux qui sont morts. On ne dit pas... Les gens maintenant disent, ah, ils sont morts, et puis ils lèvent la tête au ciel, là, ils sont là-haut, ils nous regardent. La Bible dit, s'ils ont été incrédules, ils sont des esprits en prison, qui souffrent et qui attendent le terrible jugement de Dieu. Alors Pierre dit, vous avez le choix. Ou vous souffrez comme Christ a souffert, et vous connaîtrez la gloire. Ou vous refusez, vous préférez le confort avec la majorité. Mais je vous dis, ce qui est arrivé du temps de Noé, c'est ce qui arrivera aussi. Quand vous mourrez, vous ne serez que des esprits malheureux en prison qui attendent le jugement de Dieu. Aujourd'hui encore, la patience de Dieu s'exerce. Mais un jour, elle s'arrêtera, comme au temps de Noé, où les hommes vivaient tranquillement, mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et le déluge est venu, la Bible dit, et Jésus qui le dit d'ailleurs, le déluge est venu, il les a emportés, des esprits en prison. Alors, ne courez pas, si vous ne connaissez pas Christ, ne courez pas le danger d'avoir votre esprit en prison, avec comme unique perspective des souffrances éternelles. Mais venez à Christ dans la repentance et dans la foi. Car aujourd'hui, Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Aujourd'hui est encore le jour de grâce. Alors venez, quand vous entendez la voix de Dieu qui vous parle, chaque fois que vous entendez une prédication, c'est Christ qui parle par son esprit, comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé. Alors venez à lui dans la repentance et dans la foi. Et si nous sommes un chrétien, voyons la souffrance pour Christ comme un sujet de gloire. Je termine avec ce verset dans Jean, dans 1 Pierre 5. Il dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez, quoi, souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il vous a appelé à la gloire après que vous aurez souffert. Souffrance et gloire. Mais en fait, c'est ce que Pierre a dit que les prophètes ont prophétisé. Rappelez-vous, en 1 Pierre 1, verset 11, les prophètes qui ont prophétisé avant vous, touchant, d'accord, la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, hein, d'accord. Ils ont voulu sonder les temps marqués par l'Esprit de Dieu qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et les gloires dont elles seraient suivies. Et Pierre termine son épître en disant, Dieu vous a appelé à la gloire après que vous aurez souffert. On ne peut pas passer par un autre chemin que celui que par lequel notre maître est passé. Donc s'il permet que nous souffrions pour ça, pour l'évangile, pour sa cause, considérons cela comme une grâce devant lui. Prions. Nous te remercions Seigneur pour ta parole et... Nous sommes conscients, parce qu'elle le dit, qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais nous te prions que ce qui est clair et que ce qui est pleinement clairement présentée, qui est une exhortation pour nous, nous puissions la retenir et nous y conformer. Merci pour ta parole qui est la vérité. Et que par ton esprit, elle agisse en nous et incline nos cœurs dans l'obéissance. Pour la gloire de ton nom. Amen.